Bonjour à tous, bienvenue dans France-Afrique, un rendez-vous désormais mensuel dans lequel et durant une heure seront commentées quelques-unes des étranges relations de la France, officiellement terre des droits de l'homme, avec l'Afrique, terre de non-droit.
La violence des combats, l'assassinat de l'Afrique, du président, du mandat, de l'Éronie.
France-Afrique.
Là, on est avancé.
Le problème des liens de la
France. La France, la cause des réfugiés, c'est notre
sujet. Une autre oreille sur la politique africaine de la France.
Pour une raison qui me paraît aller
exactement en général.
Parce que, disons, les représentants de ces pouvoirs.
C'est que les Africains s'entendent entre eux. Et nous voulons avoir l'occasion.
En Afrique noire, il y a le suffrage universel. Le suffrage universel.
Survie est née au début des années 80 pour militer contre la faim et pour le développement.
Odile Biyidi.
Très vite, cette association a été amenée à se poser des questions sur l'échec du développement, les causes de cet échec. Après des tentatives pour mobiliser l'opinion, pour obtenir des lois obligeant les États à aider le développement, l'échec de ces démarches-là ont amené, en particulier François-Xavier Verschave, à analyser les obstacles qui était posé sur ce développement. Et il a vu que c'était des obstacles politiques et que c'était l'existence d'une politique de service secret, de manipulation des États africains qui bloquait le processus de démocratisation en Afrique.
Associer ces deux noms, France et Afrique, cela relève d'un curieux effet de style. A priori, plus de 40 ans après son indépendance, le continent ne cultive aucune subordination ou relation privée avec qui que ce soit, à commencer par l'Hexagone. Certes, nos élus brandissent bien la curieuse appellation de « lien privilégié issu de notre histoire commune » pour désigner la proximité de la France avec les nations issues de ses anciennes colonies. Mais désormais, c'est très clair, les républiques africaines volent de leurs propres ailes. Certes, mais elles volent mal, alors il faut bien les aider. Soyons généreux, nous dit-on, puisque les Africains n'y parviennent pas eux-mêmes, aidons-les. Ça s'appelle l'aide publique au développement. Rien que de très bonnes intentions. Il est vrai que le continent en a besoin. Pensez donc, 900 millions d'habitants, 60% en dessous du seuil de pauvreté. Et les guerres aussi. Il vient justement de s'achever dans l'indifférence du reste du monde, le conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité après la Seconde Guerre mondiale. La guerre du Congo a fait, je vous le rappelle, 5 millions de morts. Le problème est toujours le même. Afrique, pauvreté, guerre. On le déplore une dizaine de minutes à table et puis après, on passe à un autre sujet. Au fond, tout le monde s'en fout. Comme si l'Afrique ne pouvait réellement exister en dehors de la représentation fantasmée de gentils petits nègres analphabètes, directement issus de l'esprit de nos ancêtres, colons et esclavagistes. Le problème, c'est que ça n'est pas vrai. Là-bas, comme partout ailleurs, la douleur physique est la même. Les pleurs d'une mère, d'un enfant n'y seront jamais du cinéma. La faim, la pauvreté, l'ennui, la peur. Tout cela est bien réel. D'une telle réalité qu'il nous serait coupable de seulement l'imaginer. Mais à s'attarder seulement un instant sur cette catastrophe permanente, alors on s'aperçoit bien vite que cette indifférence ne relève pas seulement de la non-assistance à un continent en danger, mais bien plus à une instrumentalisation de cette misère par nos dirigeants et en particulier ceux de la France, car à l'insu des citoyens, s'est bâti depuis 1958 un système parallèle qui ne doit rien au pire des mafias. Alors, dorénavant, en plus des gentils petits nègres du 19e, il y a les gros dictateurs corrompus. Eux, ce sont les amis de nos hommes politiques. Ils le reçoivent dans leurs hôtels particuliers des Champs-Élysées, comme Omar Bongo qui vient d'accorder à Nicolas Sarkozy puis à François Bayrou, à chacun un entretien. Une démarche tout à fait étrange, qui sonne comme une obédience de l'un à l'autre. Le tout est de savoir qui. Dans France-Afrique, une émission animée par l'association Survie, nous tenterons d'éclairer l'actualité de la politique africaine de l'Hexagone. Pour ce faire, nous passerons en revue, en compagnie de quelques chroniqueurs, l'actualité de différents pays dans lesquels la France, d'une façon ou d'une autre, joue un rôle. À chaque fois, nous recevrons un témoin privilégié qui viendra développer un thème spécifique. Mais aujourd'hui, Pour la première émission, nous serons en compagnie de Odile Bihidi, présidente de Survie France, rencontrée à l'occasion d'un colloque à la librairie Terra Nova. Nous avons commencé par lui demander ce qu'est la France-Afrique.
C'est un mot qui a été vulgarisé par François-Xavier Verschaffe comme titre de son livre qui s'appelait « La France-Afrique, le plus long scandale de la République ». Et donc ça désigne effectivement la liaison douteuse politique entre, l'État, entre les autorités françaises et les pouvoirs africains pour fonder une politique occulte de complicité et une politique assez nocive.
Quelle est cette forme justement de politique nocive ? Est-ce que c'est simplement une petite préemption ? Est-ce que c'est très conséquent ?
Oui, ça a été la reconduction sous une nouvelle forme occulte de la domination coloniale qui avait pris fin avec ce qu'on a appelé les indépendances en 1960, qui était simplement un opportunisme historique pour donner une pseudo-indépendance à des États qu'on a gardés dans une étroite dépendance, en truquant justement la politique de ces États-là.
Donc, vous dites que après la colonie, l'indépendance, c'est un leurre, que la France a gardé un pied, beaucoup plus qu'un pied, dans ses anciens précarés. Mais à quelle fin ?
Eh bien, pour garder toutes ses positions d'influence, puissance mondiale avec une influence internationale qui commandait un certain nombre de votes à l'ONU, puissance économique avec la main mise sur les ressources en matière première, puissance aussi culturelle, si on peut dire, garder dans le giron de la francophonie des pays assujettis. Et tout l'ensemble de ces enjeux-là font que la reconduction de la domination coloniale est effectuée.
Depuis 50 ans, cette France-Afrique, ça a quand même des conséquences monstrueuses. On compte par dizaines de millions les morts des guerres successives en Afrique, et puis surtout la pauvreté. Le continent entier a sombré dans une pauvreté et ne semble pas pouvoir s'en relever. Quelle responsabilité Quel jeu joue la France dans ces conflits et dans cette pauvreté ?
Oui, c'est un jeu de grande puissance qui est absolument indifférente aux conséquences, qu'elle nie d'ailleurs. Elle nie les conséquences qui sont désastreuses pour l'Afrique. Et il a fallu justement, après des dizaines d'années de cette politique, constatant l'état de déliquescence de tous ces pays qu'on a conseillés, qu'on a fabriqués, eh bien, il faut qu'on trouve maintenant des explications racistes à cet état de fait. C'est parce que c'est des Africains, c'est parce qu'aucune politique n'est possible en Afrique, aucun développement n'est possible en Afrique. Voilà le nouveau discours pour masquer l'échec d'une politique, échec pour les Africains peut-être, mais le maintien d'une domination dont la France a profité pendant toutes ces années, qui ont été des années de grand développement de la France.
C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par un courbis foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, par des tambours.
Il est certain que si l'on déverse sur l'Afrique noire ou blanche des milliards et des milliards d'investissements, à l'heure actuelle, chaque année, plus de 200 milliards. Il faut des garanties. Il est évident que 200 milliards et quelques, et demain davantage, répartis dans l'Afrique, instables politiquement, c'est risqué d'avoir perdu l'investissement initial et plus tard le profit. Donc, l'investissement massif doit s'accompagner de la stabilité politique. Donc, nous devons tout faire pour prévoir la révolte, non pas par une répression préalable, mais par des institutions souples et adaptées. Mais je ferai une constatation, ce sera un des seuls aspects polémiques de notre conversation, c'est que j'observe avec grande curiosité que ce sont ceux-là même qui veulent le maintien de formules et d'institutions qui me paraissent absolument dépassées, qui pour acheter, en somme, le terme n'est pas trop fort, le consentement politique des autochtones africains, distribuent sans contrôle d'énormes quantités d'argent. Alors que ma thèse est tout à fait différente, je dis dans la mesure où vous consentez l'autonomie politique à ces territoires, rien de plus normal, à compter du moment où il s'agit de partenaires nettement différenciés, que de laisser au partenaire métropolitain qui, lui, accorde ses investissements, les moyens de contrôle de ses investissements, sans que les peuples d'Afrique noire puissent être mêlés, autant qu'ils le sont aujourd'hui, à la distribution dont ils profitent. Et voilà pourquoi je pense que la différenciation, la souplesse, la fédération permettent à la fois d'avoir des institutions générales et des institutions spécialisées. Alors, quand nous aurons fait cela, le cartiérisme aura d'autant moins de sens que les Français auront pu comprendre que le pétrole, le fer, le manganèse, l'or, le diamant, l'uranium, sont déjà découverts dans le sous-sol africain et qu'après tout, l'investissement dans un pays fidèle parce que libre est un investissement rentable. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point.
Oui, monsieur le ministre, je vous remercie. Je rappelle le titre de ce livre qui paraît chez Plomb, j'ai oublié de le dire. Présence française et abandon par François Mitterrand.
En 60, toute la structure de la rue Oudinot, ministère des colonies, les mêmes fonctionnaires, les mêmes chefs de service, les mêmes sont restés les cadres qui ont géré ensuite un ministère dit de la coopération.
Après avoir colonisé avec les mêmes arguments intellectuels, on va coopérer.
Les mêmes personnels, puisque les administrateurs des colonies sont devenus des coopérants.
Et est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine façon, le ministère de la coopération sert de couverture à tout un réseau parallèle?
Il a servi, bien sûr. La coopération a été un pivot de la politique française, c'est-à-dire que la coopération établissait des gouvernements parallèles dans les ex-colonies. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Abele Yinga, qui a été chef de cabinet du premier ministre Charles Assalé au Cameroun. Et il décrit bien comment le coopérant entrait dans le bureau du Premier ministre, disait il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne frappait même pas, il ne se faisait pas annoncer, il était le chef.
Et qu'après tout, l'investissement dans un pays fidèle parce que libre est un investissement rentable. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point.
C'est l'histoire d'un marchand d'armes.
Du riz et des armes.
Abkhaz, fils de nègre.
C'est l'histoire d'un marchand d'armes français, répondant au nom de tirailleurs. Un nom prédestiné, me direz-vous d'ailleurs. Son grand-père était poilu en 14-18, mort à Verdun, bref. Tirailleur Jean-Pierre, de son prénom, a deux passions. L'Afrique et les armes, des armes de tout calibre qui découlent en Afrique. Activité juteuse, pour lui le fric n'a pas d'odeur, il ne fait pas d'état d'âme, peu importe où vont les armes, les vents plus au front, après tout, ce ne sont que des armes, se fout de leur usage, des dommages, des carnages, ces morts par milliers, tout ce sang qu'ils propagent, la seule chose qui compte à ses yeux, c'est la marge, le bénéfice net, l'intérêt qu'ils dégagent, business is business, dit le vieil adage, quand tirailleurs se frottent les mains, ça sent l'orage, un conflit éclate et Jean-Pierre plie bagage, son catalogue en main. Le carnet de commandes toujours plein. La conjoncture est bonne, le marché en pleine croissance. Quand en banque suisse et bateau de plaisance, un train de vie royale, tirailleur est aux anges. Le téléphone sonne, annonce un coup d'état, une sécession en or, une émeute qui éclate. À l'autre bout du fil, Jean-Christophe éclate de rire. Un marché de plus vient de s'ouvrir. Les nouvelles sont bonnes, un peuple va souffrir. La vie est belle, même si sombre est l'avenir. Du riz et des armes, c'est de ça qu'il s'agit. Apocalypse annoncé aux 20h, ouvrez vos cœurs, donnez du riz à tous ces enfants qui meurent. Pendant ce temps, les armes coulent à flot par le même canal. Le riz débarque en même temps que les armes. Apocalypse annoncé aux 20h, ouvrez vos cœurs, donnez du riz à tous ces enfants qui meurent. Pendant ce temps, les armes coulent à flot par le même canal. Le riz débarque en même temps que les armes. Le Biafra. Exemple typique du paradoxe. Les enfants meurent de faim et Jacques Foccart se frotte les mains. Des mercenaires en armes débarquent au Nigeria. exploiter la misère pour introduire des armes au nom du pétrole et des dollars qu'il engendre. Un million d'innocents ont vu leur vie réduite en cendres. Images saisissantes, ces enfants squelettiques au ventre gonflé, plein d'avis dramatiques. C'est la famine verte. Non pas que les terres soient stériles, mais les mines et la guerre empêchent de cultiver. Ils voient leur récolte pourrir sous leurs yeux. Pire, ils voient leurs enfants mourir sous leurs yeux. Enfants sacrifiés, les sosaboys pullulent, armés jusqu'aux dents, la bataille promet d'être rude. C'est la guerre et son cortège d'inhumanité. Un monde dans lequel prospère Jean-Pierre. Une courbe des ventes florissante, un marché en croissance, soutenu par la politique de la France. France. Qui tient à garder l'Afrique sous influence. Le nerf de la guerre, la désinformation. Ça chemine des armes sous couvert d'humanitaire. C'est bon pour les affaires et ça soulage les consciences. L'opération turquoise en est un parfait exemple. Alors allez-y, faites comme ils ont dit. Envoyez donc du riz, mais maintenant vous savez que dans les sacs se cachent aussi des armes. Du riz et des armes. C'est de ça qu'il s'agit. La solution est avant tout politique, avant d'être humanitaire. C'est du riz et des armes. Du riz et des armes. Apocalypse annoncé aux 20h, ouvrez vos cœurs.
Donc il y aurait en France tout un réseau assez occulte et bien discret de un système de domination de l'Afrique qui serait protégé par les hommes politiques. Pourtant il y a eu des alternances en France.
Oui, mais ce qu'on a vu justement quand la gauche est venue au pouvoir en 81, on a vu que très vite il y a eu un partage du gâteau et non pas l'assainissement des pratiques focartistes antérieures. Et au contraire, les socialistes ont le président, Mitterrand, en mettant son propre fils, par exemple, Jean-Christophe Mitterrand, à la cellule africaine de l'Élysée, ce qui était un scandale, a reconduit le profit que les politiques tiraient des trafics avec l'Afrique. Il y a eu le scandale du Carrefour du développement sous Mitterrand, avec un ministre socialiste, Nucci. Il y a eu le scandale ELF, où on a bien vu les deux piliers, le pilier de droite, Tarallo, et le pilier socialiste, Sirvin, qui partageaient les bénéfices de cette grande major française qui avait été créée délibérément dans les premières années de la Ve République pour maintenir l'influence politique et affairiste de la France en Afrique.
Dans le cas de ELF, c'est surtout de l'appropriation des marchés du pétrole africain.
Oui, mais ELF faisait aussi de la politique.
De quelle façon ?
Le Floch Prigent, quand il était en prison, a dit dans un interview pour l'Express, je crois, qu'aucun président africain dans l'Afrique centrale n'est intronisé sans l'accord de ELF.
Tout à l'heure, vous avez cité justement Jacques Faucard, un système faucartiste. Donc Jacques Faucard, à partir des années 60, met en place un réseau qui sillonne toute l'Afrique et ouvre des lignes de téléphone directes de nombreux chefs d'État avec l'Élysée.
Tout à fait. Les chefs d'État ne sont que des pions qui sont manipulés par des gens qui n'ont pas, qui sont des services secrets et qui ne sont pas les autorités élues françaises. Tout cela, Faucard n'a aucune légitimation républicaine. C'est quelqu'un qui a été choisi et pourtant c'est lui qui gouverne l'Afrique.
Et quelle est la structure prompte à décider de l'avenir de l'Afrique en France ?
Ah ben ça, n'importe qui, du moment que vous êtes le monsieur de Bonnecorse par exemple, décide qui doit être président au Tchad. Il dit, voilà, un tel n'est pas bon, un tel
est
bon.
M. Bonnecorse, c'est donc le chef de la cellule africaine.
La cellule africaine de l'Élysée, oui, oui.
Et cette cellule africaine dépend directement du président.
Le président de la République, oui, elle se trouve rue de l'Élysée, à côté du palais de l'Élysée. Et c'est là la ligne directe, si vous voulez, entre les présidents africains et le président de la République française. C'est là qu'on défait les présidents.
Et vous dites que justement cette politique échappe au contrôle des citoyens. Par quel biais en France est-ce qu'une politique peut échapper au contrôle des citoyens, puisqu'on a quand même une Assemblée nationale, on a un gouvernement de...
Oui, il y a premièrement le fait que les institutions il faut d'abord dire que les institutions de la Ve République ont réduit passablement le rôle du Parlement, dont le poids est beaucoup moins grand maintenant dans le cadre des institutions de la Ve République. Bon, d'une part. Et d'autre part, la Constitution de la Ve République qui a été fabriquée pour De Gaulle, pour lui laisser les mains libres dans toutes les questions de politique qu'il voudrait bien s'arroger à lui. Et le domaine réservé, comme on dit, de l'Élysée, c'était une faculté de la Constitution. Ce n'est pas du tout inscrit dans la Constitution, mais c'est la possibilité pour le président de ne pas rendre compte aux représentants parlementaires de la politique qu'il mène. Donc c'est au Parlement de retrouver son rôle, d'exiger. Il faut redonner de la puissance au Parlement en France. Il faut que les leaders politiques exigent que le débat parlementaire reprenne de la dignité et de la force.
Ce n'est pas, bien entendu, que je renie en quoi que ce soit l'œuvre colonisatrice qui a été accomplie par l'Occident européen et en particulier par la France. Je considère plus que jamais que cette œuvre fut belle, plus grande et plus féconde. Et ce n'est pas sans ironie que de temps en temps, j'assiste aux fureurs anti-françaises auxquelles se livrent certains qui aujourd'hui n'ont guère d'importance et d'audience qu'en vertu de ce qu'ils ont puisé dans le trésor de la France. Mais je n'en crois pas moins. Il faut savoir, quand le moment est venu, et il est venu, reconnaître à tous le droit de disposer d'eux-mêmes, leur faire en principe confiance, et même attendre d'eux qu'ils apportent à leur tour leur contribution au bien de notre humanité.
Si l'on se réfère à toutes aux déclarations des hommes politiques de ces dernières années, elles sont toutes empreintes de bons sentiments et de bonnes intentions par rapport à l'Afrique. Mais ce qui est décrit, ce que vous décrivez, c'est que la réalité est absolument contraire. Alors, quel est ce système? Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de mensonge permanent qui consisterait à annoncer quelque chose et à faire son contraire?
Oui, il y a certainement un double langage, parce que quand ce qui est le plus confondant, si vous voulez, c'est les déclarations contradictoires, si on fait un pot pourri des déclarations de Jacques Chirac. D'une part, j'adore l'Afrique, j'aime l'Afrique, d'autre part, l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. Alors, qu'est-ce qu'il aime? Il aime les inférieurs. Hein, il aime des gens qui sont... Donc, vous voyez, il y a beaucoup de... ça peut se résumer, si vous voulez, dans un mot. C'est une politique paternaliste. C'est le supérieur qui adore les inférieurs. Bon, il les aime, et il veut leur bien, bien sûr. Mais c'est une relation très hiérarchisée. Et ça s'appelle le paternalisme.
Soleil de feu sur la mer rouge, pas une vague, rien ne bouge. Dessus la mer, un vieux cargo qui s'en va jusqu'à Bornéo. Et dans la soute pleure un nègre, un pauvre nègre, un nègre maigre, un nègre maigre dont les os semblent vouloir trouer la peau. Oh yo, oh yo, monsieur bon Dieu, c'est pas gentil, moi pas vouloir quitter pays, moi voulu voir le grand bateau qui crache du feu et marche sur l'eau. Et sur le pont, moi j'ai dormi, alors bateau il est parti. Et capitaine a dit comme ça, nègre au charbon il travaillera. Monsieur bon Dieu, c'est pas gentil, moi pas vouloir quitter pays, oh yo, oh yo. Toujours plus loin au bout du monde, le vieux cargo poursuit sa ronde. Le monde est grand, toujours des ports, toujours plus loin, en bord des ports. Et dans la soute pleure un nègre, un pauvre nègre, un nègre maigre, un nègre maigre dont les os semblent vouloir trouer la peau. Oh, oh yo, monsieur bon Dieu, c'est pas gentil, y en a maintenant perdu pays. Et y a moi très loin sur l'eau, et moi travaille au fond bateau. Toujours ici comme dans l'enfer, jamais plus voir danser la mer, jamais plus voir grand ciel tout bleu et pauvre nègre malheureux. Monsieur bon Dieu, c'est pas gentil, moi pas vouloir quitter pays. Oh yo, oh, oh yo. Au bout du ciel, sur la mer est calme, dans la nuit claire, il voit des palmes. Alors il crie, c'est mon pays, et dans la mer, il a bondi. Et dans la vague chante un nègre, un pauvre nègre, un nègre maigre, un nègre maigre dont les os semblent vouloir trouer la peau. Oh yo, oh yo, monsieur bon Dieu, sois bien gentil, amenez-moi dans mon pays. Mais viens bon Dieu, viens mon secours, moi pas pouvoir nager toujours. Pays trop loin pour arriver, et pauvre nègre fatigué. Ça y est fini, monsieur bon Dieu, adieu pays, tout le monde adieu.
Si les Africains, s'il y a des morts en Afrique, c'est parce que les Africains se battent entre eux. Nous, nous faisons de la pacification, nous faisons de...
Enfin, ces raccourcis ne devraient pas échapper aux médias. Il y a quand même...
Il faudrait qu'il y ait des médias critiques. Et je pense que le sens critique n'est pas la chose la mieux partagée par les médias en France.
Et est-ce que ça, c'est un vrai écueil pour survie, pour votre action ?
Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, sur les questions africaines, survie a expérimenté effectivement le silence fait autour de ce qu'elle pouvait avancer. D'ailleurs, le titre même du livre de Verschave, hein, Noir silence, il montre bien que c'est une politique entièrement occulte, une politique qui n'est jamais avouée, qui n'est jamais traitée, et le mot même qu'il utilise résume, bien sûr, le traitement de cette politique africaine en France, qui est omise, qui est taboue, qui est omise dans les médias.
Apocalypse, annoncé aux 20h, ouvrez vos cœurs, donnez du riz à tous ces enfants qui meurent. Pendant ce temps, les armes coulent à flot par le même canal. Le riz débarque en même temps que les armes. Apocalypse, annoncé aux 20h, ouvrez vos cœurs, donnez du riz à tous ces enfants qui meurent.
Il y a en France une remise en cause assez systématique de l'action de survie ou d'autres contestataires de la politique française en Afrique, et qui s'appuie parfois sur de grands raccourcis. Et vous-même, vous avez écrit avec... François-Xavier Verschave, Négrophobie, en réponse à un livre de Stephen Smith, extrêmement virulent contre l'action de survie. Mais comment ? La question se pose encore une fois, comment est-ce que... Quel est l'argumentaire de ces gens ?
Alors, quelque chose qui marche bien en France, c'est de dire que quelqu'un est anti-français. Vous avez, alors là, tout ce qu'il dit va être frappé au sceau de l'anti-France. S'il est critique, donc il y a une façon de... effectivement de jeter le soupçon sur tout ce qu'il peut dire. Mais la tradition de censure, elle est ancienne, puisque moi je peux dire un mot de Mongo Betty, puisque quand il a voulu dévoiler un pan de la politique française en Afrique dans Main Basse sur le Cameroun, la réponse des autorités françaises a été la saisie de son livre. Et on attend encore aujourd'hui les grandes voix, les grands intellectuels français de l'époque, très progressistes, très révolutionnaires, qui se sont élevés contre cette saisie. C'est passé comme une lettre à la poste.
Mongo Betty fut le compagnon d'Odile Bihidi jusqu'à sa mort en 1991. Il était un écrivain camerounais dont l'œuvre tient une bonne place aux côtés de celle de Frantz Fanon ou d'Aimé Césaire, dans la mouvance de ces intellectuels noirs des années 60, engagés dans le panafricanisme. Avec lui, Odile fonda la revue « Peuple noir, peuple d'Afrique », destinée à éclairer les réalités du post-colonialisme.
Moi, j'ai jamais, depuis le temps que nous nous intéressons à cette question, tout le temps que nous avons fait la revue, nous avons été obligés de remettre en cause les autorités intellectuelles françaises de toutes sortes, universitaires et autres, pour leur lâcheté et leur paternalisme, encore une fois, dans le traitement des questions africaines, que ce soit des questions universitaires, que ce soit des questions littéraires, que ce soit des questions politiques. Vous avez toujours une façon, en France, d'étouffer les voix africaines dès lors qu'elles sont exceptionnelles. Ce qu'ils adorent, c'est les médiocres dans les intellectuels africains. Mais tous les grands intellectuels africains et même négro-africains, comme Césaire, eh bien, ont été étouffés, hein, ont été marginalisés. Fanon a été marginalisé, Césaire aussi. Et à côté de ça, on a fabriqué des gens comme Senghor qui criait « Vive la France ». Hein, c'est tout ce qu'on attend d'un intellectuel africain, qu'il crie « Vive la France », point.
Le général de Gaulle aide d'une façon générale les pays du tiers-monde à maintenir leur indépendance et le vœu du général de Gaulle, c'est que les Africains s'entendent entre eux. Et nous voulons avoir l'occasion d'exprimer au général de Gaulle notre reconnaissance et surtout de lui montrer que nos foules lui sont encore très attachées. Le général de Gaulle est certainement, dans mon pays, l'homme d'État le plus populaire.
Mais bien sûr, il y a eu des grands résistants africains, bien sûr. Il y a eu Sankara, on lui a réglé son compte assez rapidement. Modibo Keïta, qui était le premier président du Mali, était très vite écarté. Ne parlons pas de Sékou Touré, qui a osé dire non au référendum. Et Sékou Touré n'a pas pu... résister, si vous voulez, aux pressions qui l'ont acculé à devenir le bourreau de son peuple, mais c'est ce qui est inexcusable. Mais je veux dire, tout a été fait pour le déstabiliser. Sylvanus Olympio a été assassiné par Yadema. La mort de Barthélémy Boganda, qui avait de grandes ambitions pour l'Afrique centrale, est une mort probablement criminelle également, sans compter les leaders camerounais qui ont été tués, assassinés, l'un en Suisse, l'autre dans le maquis au Cameroun, l'autre exécuté en place publique à la suite d'un procès inique au Cameroun.
Donc toute tentative d'une espèce de politique autonome avec une vision panafricaine, plus globale, enfin en tout cas émancipatrice, toute tentative a été vouée à l'échec. Mais...
Oui, je pense que l'élite, absolument, l'élite intellectuelle et politique africaine a été entièrement épurée.
Mais là, c'est des pratiques criminelles dignes de la mafia dont vous parlez.
Complètement, complètement. Et si vous lisez les mémoires de Foucard, il avoue manipuler tous les pouvoirs africains, ça c'est un trop grand plaisir pour lui, mais il n'avouera jamais avoir été à l'origine des assassinats, bien sûr. Mais tout le monde sait que les réseaux Foucard, bon, citer encore le docteur Oudel Bono, un Tchadien qui était tué sur le trottoir devant son domicile à Paris. Hein. Donc toutes ces actions sont des actions, bien sûr, violentes et criminelles pour maintenir le pouvoir français en Afrique.
Ainsi, comme le dit Odile Bihidi, la politique française en Afrique, c'est une mise sous tutelle économique, mais aussi et surtout des crimes, parfois par centaines de milliers. Alors Survie a mené de grands combats depuis 20 ans, afin d'éclaircir quelques drames.
Eh bien, Survie s'est mobilisée dans la tragédie du Rwanda. C'est ça qui a été déterminant pour la mobilisation de Survie, qui a vu tout de suite l'implication de la politique française dans dans la genèse de la tragédie rwandaise et qui a voulu informer l'opinion sur ces dérives de la politique française. Et ça a été un grand combat de survie qui a mis en place, après l'échec de la mission d'information parlementaire, qui a, pour le 10e anniversaire de 94, c'est-à-dire en 2004, survie a mis en place une commission d'enquête citoyenne qui a fait progresser les choses et qui a abouti à au dépôt de plainte et à l'ouverture d'une instruction sur des faits qui mettent en cause les militaires français au Rwanda.
Ils inspectaient les cartes d'identité. Lorsqu'ils voyaient la mention Hutu, ils laissaient la personne franchir la frontière à Rusizi. Lorsqu'il y avait la mention Tutsi, ils chassaient la personne en lui demandant de retourner en arrière pour retrouver les Inkotani. En général, ils évaluaient le nez et se fiaient aussi aux cartes d'identité avec leurs mentions ethniques, Hutu, Tutsi. J'atteste que moi, personnellement, je fais partie des gens à qui les Français ont donné l'ordre de tuer les Tutsis. Nous avons fait des barrières avec des armes. Là aussi, les Français nous l'ont reproché, car elles sont repérables par les satellites, et cela nous dénoncerait. Ils nous ont conseillé de les enlever et de nous mettre sur les côtés pour tout surveiller nous-mêmes. Nous avons enlevé les troncs d'arbres qui coupaient la route et avons gardé l'œil en restant sur les côtés. Ils nous ont expliqué qu'avec la surveillance de la communauté internationale, si les satellites voyaient les barrages, ça serait du plus mauvais effet. Ils nous ont donc conseillé de surveiller la route nous-mêmes, sans barrière. Ils demandaient à toute personne qu'ils croisaient, Tutsi ou Hutu. Si tu répondais Hutu, ils te faisaient un signe d'amitié, yes, yes. Mais pour reconnaître un Hutu, ils se fiaient à ce signe, le port du gourdin. Les Français sont arrivés le 27 juin. Nous étions restés peu nombreux, environ 5 ou 6 000 rescapés. La plupart étaient blessés et nous étions tous affaiblis. Les Français regardaient comment ils nous tuaient. Ceux qui essayaient de s'échapper tombaient sur d'autres groupes d'Interahamwe. Il n'y avait nulle part où aller parce que les Interahamwe achevaient à la machette.
Nous avons fait un énorme rapport de la commission d'enquête citoyenne. C'est un livre qui devrait être beaucoup plus lu. Et ça ne passe pas en France parce que l'opinion française en général et les médias en particulier n'aiment pas qu'on remette en cause les responsabilités françaises.
À part le Rwanda, est-ce qu'il y a eu d'autres combats menés par survie qui ont été probants, qui ont amené une évolution de la situation des populations?
Pour amener à une évolution de la situation des populations, ça, ce sera de plus longue haleine. Mais ce que fait survie, c'est essayer de déconsidérer les pouvoirs corrompus qui sont en Afrique. Et il y a quand même eu l'épisode, après la parution de Noir Silence, le livre que François-Xavier Bertschave a publié sur un certain nombre de scandales en Afrique. Il s'est vu attaqué par trois présidents africains, trois chefs d'État africains, Bongo, du Gabon, Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Idriss Déby du Tchad, pour offense. Et ça a été un moment de la lutte de survie essentielle, puisque au procès, le procès où il était accusé s'est transformé en procès des accusateurs, vu l'ampleur des témoignages qui ont été apportés sur le caractère corrompu et insupportable de ces régimes qui sévissent en Afrique. Et le procès a été plutôt un procès de la France-Afrique plutôt qu'un procès de François-Xavier. Et il a gagné son procès, il a gagné en appel, et les plaignants ont renoncé à aller en cassation.
Mais aujourd'hui, tout est gâté, l'armée est divisée. les étudiants sont divisés, la société est divisée, même nos maires au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Avant ne parlait pas de chrétiens ni de musulmans, mais aujourd'hui ils ont tout gâté. L'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée. La xénophobie appelle l'ivoirité. Ils ont créé les houlets et les olés. Mais mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal à mal, mon pays va mal. Pochomana nyamula, on va faire gagner jamana nyamu.
S'inscrit dans l'aide au développement et il est clair que chaque année elle consacre une part non négligeable de son budget, plusieurs milliards d'euros à cette aide publique au développement. Et là, objectivement, ce ne sont que des bons sentiments. Enfin, il n'y a rien. Est-ce que vous remettez en cause cette aide ?
L'utilisation de cette aide, bien sûr. Son objet, bien sûr. L'aide au développement, nous voudrions avoir un droit de regard sur. Et qu'il y ait une transparence sur l'utilisation de cette aide qui a été souvent dans le passé détournée, qui est souvent liée, donc qui est une aide très intéressée, qui n'est pas liée, c'est-à-dire qu'on finance des projets français en Afrique. Des projets. Voilà, des grands projets qui reviennent aux entreprises françaises.
Voilà, mais la route, le bâtiment aura été construit.
Oui, mais il faudra, bien sûr, mais ce ne sont pas forcément les décisions les décisions les plus utiles aux populations locales qui seront prises. Il faut voir aussi qui va décider, par exemple, la construction d'un troisième grand aéroport international au Cameroun, qui en a déjà avec un trafic de un ou deux avions par jour. Est-ce que c'est ça qui est le bien des populations ? Et en plus, la construction de cet aéroport sera surfacturée.
après les meurtres, maintenant c'est du blanchiment d'argent dont il s'agit.
Parce ah, les trafics, bien sûr, bien sûr.
Ce que dit Survie, c'est que cet argent parfois revient dans la politique française.
Bien sûr. Il revient de diverses façons. Il revient par les surfacturations, il revient par le jeu normal des travailleurs des entreprises, bien sûr. Mais il revient également par le fait que on verse des commissions à des Africains et que ces Africains-là planquent leur fric en Europe et ils n'investissent pas chez eux.
Maintenant, en 2007, en pleine période électorale, on y reviendra plus tard, mais quels sont en ce moment en Afrique les grands chantiers, enfin les grands drames en cours dans lesquels la France est impliquée d'une façon ou d'une autre?
Eh bien, il y a toute la situation du Tchad qui est dramatique parce que il y a une guerre larvée au Tchad et la France soutient un clan tchadien. Elle le soutient militairement.
Donc le camp du président
Déby, Idriss, oui, contre la contestation d'autres fractions armées. Et surtout, la France ne soutient pas la revendication de la société civile, des associations de droits de l'homme, qui sont plutôt méprisées dans le dialogue qu'on devrait avoir avec les politiques au Tchad. Il y a le soutien que la France a accordé pour la mise en place de la succession scandaleuse du dictateur du Togo par son fils, par le clan du dictateur, par conséquent. Ça, c'était un abus manifeste. Il y a l'intervention militaire en Centrafrique dans les débats internes de la Centrafrique, puisque la France, là aussi, soutient les armées de Centrafrique contre des rébellions dans le nord et dans l'ouest du pays. Et cela, évidemment, est un empiétement une ingérence dans la politique intérieure de la Centrafrique. Et surtout, il n'y a aucun justificatif et aucune explication donnée aux représentants du Parlement français sur ces actions, quand même, qui sont des actions militaires de la France.
Pourtant, vous dites que l'ingérence est scandaleuse en Centrafrique, mais la France est tenue par un accord de défense avec la Centrafrique et quelques autres pays africains, d'ailleurs.
Oui, alors...
On peut dire qu'elle honore sans ses engagements. Il est plutôt un honneur pour la France de venir au secours d'un pays menacé par une rébellion qu'on ne connaît même pas, d'ailleurs.
Elle choisit. Alors la France, c'est au coup par coup, parce que la France avait les mêmes engagements dans ces traités d'ailleurs d'assistance qui ont été conclus à l'indépendance et dont une grande partie sont secrets d'ailleurs, ce qui n'est pas très normal, parce qu'on ne voit pas comment engager un pays et engager les parlementaires d'un pays alors que les accords restent secrets. Il y a beaucoup de clauses secrètes dans ces accords, ce qui est tout à fait contraire à l'esprit républicain. Et d'autre part, la France finalement choisit ou non d'appliquer les accords. Parce que, par exemple, elle n'a pas combattu la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais elle combat la rébellion en Centrafrique. Et elle soutenait plutôt, on pense plutôt qu'elle soutenait la rébellion en Côte d'Ivoire. Donc c'était pourtant un gouvernement légitime et elle a choisi de ne pas le défendre contre sa rébellion.
Alors la question qui se présente après ce tableau bien noir de l'Afrique, c'est quel avenir ? Parce que va-t-il se passer ? Est-ce que vous avez l'impression qu'en 2007, en France en particulier, à l'occasion des élections, l'Afrique s'est inscrite comme un enjeu de la campagne électorale ?
Non. En France, on n'en a pratiquement pas parlé. Nous avons essayé d'interpeller les candidats. Ils sont là-dessus, ils sont animés des meilleures intentions. Le fait qu'ils ne soient pas très fiers du passé est traduit par le fait que tous déclarent qu'il faut changer quelque chose. Ça prouve que ce n'était pas si bien que ça avant. Mais je pense que le véritable espoir de l'Afrique est dans le fait que les générations montantes d'Africains vont changer inéluctablement les choses. Les ambitions Les ambitions des jeunes Africains sont de vivre sous des régimes qu'ils auront choisis. Et si, comme la politique aujourd'hui qui consiste à les assigner à résidence chez eux, puisqu'ils n'ont plus le droit de circuler, qu'il y a toute une politique pour les maintenir, eh bien, ils feront le travail chez eux, forcément. Forcément. Moi, je suis assez optimiste sur le destin de l'Afrique parce que le progrès est inéluctable. Le progrès est inéluctable. L'Afrique part de très bas parce qu'elle a plutôt régressé dans les années qui viennent de s'écouler, plutôt que progresser. Mais elle trouvera sa libération, c'est par la lutte de ces populations qui en ont assez et qui le montreront. La plus prometteuse, si vous voulez, c'est l'évolution de l'Afrique du Sud. Il y a 30 ans, quelqu'un aurait dit que l'apartheid était condamné, vous l'auriez pris pour un illuminé. C'était un système qui semblait établi pour l'éternité, qui était tellement bien organisé, tellement sûr de lui, que c'était une utopie de croire qu'on pouvait le renverser. Or, il s'est effondré, tout d'un coup. Et on craignait que cet effondrement ne se fasse dans des luttes extrêmement sanglantes. Les luttes ont été terribles, hein. Les luttes ont été terribles et meurtrières, mais ça a été mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Et on s'est débarrassé d'un système qui était fait pour tomber, parce qu'il était absolument fondé sur une conception raciste de l'homme.
S'achève notre rencontre avec Odile Bihidi, présidente de Survie. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous trouverez des infos sur le site www.survie.fr et le contact de Survie Midi-Pyrénées sur le site www.survie31.over-blog.com.
Il cautionne la dictature, tout ça pour nous affamer. Il pille nos richesses. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola, ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda.
Moi, je reviendrai pour un prochain numéro de France Afrique le mois prochain, même endroit, même heure. Cette fois, nous passerons en revue l'actualité, mais auparavant, soyez nombreux à venir le 2 juin au cinéma Utopia de Tournefeuille pour une après-midi de films et de débats consacrés à la privatisation des services publics en Afrique, autour de l'exemple du train Dakar-Niger. Il sera la présence de Tikoura Traoré, un grand leader syndical malien, fondateur de Kossili Rail, récemment licencié. C'est Udrail, Attaque et Survie, organise cet après-midi. Puis quelques jours plus tard, le 7 juin, un événement, toujours à Utopia Tournefeuille, décidément des amis. Il sera projeté « Sometimes in April » de Raoul Peck, un film inédit en France, une fiction qui nous plonge au cœur du génocide rwandais. Le film sera suivi d'un débat consacré à la complicité française dans le génocide de 1994. Voilà, c'est fini. Un immense merci à Gérard Maillot qui a réalisé cette émission. Et je l'espère à très bientôt.
La politique France-Africa, c'est du blague et du yé. La politique Amérique-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et du yé. La politique France-Africa, c'est du blague et du yé. La politique Amérique-Africa.
Amérique, Afrique, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. Ils vont nous blague et tu es. Blague et tu es, la 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 la. Ils veulent nous blague et tu es. Blague et tu es. Tout va pour nous, non, bah nous blague et tu es. Blague et tu es, la 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 la. Blague et tu es, oh, c'est